Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage Didier. Bonjour Didier.
Bonjour Corinne, bonjour tout le monde.
Aujourd'hui, en écho à notre dernière émission, on repart au Tibet, Didier.
Ah, on enfile la doudoune et c'est reparti.
Oui, t'as gardé tes chaussures.
tout l'équipement.
L'équipement. Ouais. Alors, le Tibet, une région du monde en ligne de mire. Puis ensuite, Didier nous emmènera en Chine dialoguer avec les morts, c'est
ouais,
ça?
C'est assez particulier, oui.
Parce que là-bas, c'est devenu facile.
Oui, voilà, on va en parler.
Une bonne nouvelle, finalement.
Oui, je sais pas. Voilà, je suis pas convaincu, moi, mais oui.
Bon. Alors,
On en reparle. C'est ça.
Alors, pour commencer, un peu de géographie et d'histoire sur le Tibet.
Oui.
À plus de 4000 mètres d'altitude, on l'a vu la semaine dernière avec Alexandra, comment elle en avait quand même bavé de monter jusqu'à la Sahara. Donc, 4000 mètres d'altitude, le Tibet porte bien son nom de toit du monde. C'est une région d'une extrême beauté qui préserve encore du mystère. Alors, le Tibet est situé sur le plateau du Qinghai. Donc ça, c'est le nom chinois. Nous, en français, on dit « le Tibet est situé sur le plateau du Tibet ». Moi, je préfère dire « Qinghai ».
D'accord.
Alors, le Tibet possède la montagne la plus haute du monde. Tout le monde le sait, mais je ne sais pas si on se rappelle toujours de sa hauteur.
Bon, à quelques mètres près, je ne suis pas au clair, non.
8848 mètres.
D'accord.
Alors, ça varie quelquefois avec la neige, tout ça.
Oui.
Mais quand même, hein, 8848 mètres, c'est...
Ouais, ça fait haut,
ça impressionne.
Oui, ça varie aussi peut-être avec les détritus qui restent là-haut, parce que c'est ça aussi un phénomène important, la sur-fréquentation.
Oui, il y a beaucoup de monde qui fréquente maintenant.
Ça. Voilà.
Alors, le Tibet possède aussi les sommets les plus élevés de la Terre, 4900 mètres en moyenne. Je ne vais pas vous faire le détail,
ça fait une belle
mais c'est
moyenne.
Quand même de la très très haute altitude. Et il y a aussi beaucoup de forêts, c'est-à-dire qu'avant d'atteindre les 4900 mètres, en bas, il y a des forêts parce qu'il y a aussi beaucoup de vallées. Alors, ses principaux voisins sont le Népal, le Sikkim, on l'avait vu, on avait parlé du Sikkim.
Moi, j'avais découvert, je ne connaissais pas.
C'est un tout petit pays, c'est comme le Bhoutan, c'est voisin du Bhoutan, des pays bouddhistes. Son grand voisin à l'est et au nord, c'est la Chine.
Eh oui.
Cette région autonome appartenant à la Chine est protégée par l'Himalaya et c'est toujours et encore la destination par excellence du voyageur amateur de trekking.
Oui, ça, sans aucun doute. Oui.
Ça, tout le monde va là-bas.
Bien sûr. Il ne
faut pas s'imaginer être tout seul. Alors, on y parle le tibétain, bien évidemment, mais surtout le mandarin maintenant.
Oui.
La religion majoritaire est le bouddhisme tibétain. Parce qu'il y en a plusieurs, des bouddhismes. Bon, celui-là, c'est le bouddhisme tibétain. Et le Tibet compte 3 500 000 habitants environ, et sa capitale est toujours Lhasa. C'est un immense territoire, puisqu'il fait presque 5 fois la France, quand même.
Même.
Alors, il faut savoir que Tibet, en chinois, ça se dit Qingzhang.
Okay.
Les Chinois parlent du Tibet en disant Qingzhang, pas Tibet, bien sûr. L'histoire du Tibet est lointaine et complexe, et pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui, on va remonter un petit peu le temps. L'époque où le Tibet a été conquis par les Mongols.
Eh oui, on y revient.
En 1250, on y revient.
Eh oui.
C'est assez proche de nous quand même, je le répète. Alors, souvenez-vous, chers auditrices, auditeurs, c'est Kubilai, le petit-fils de Gengis, la fameuse dynastie Yuan.
Oui, mais alors le Tibet, il est devenu chinois dès cette époque
Alors, oui, on peut dire ça au XIIIe siècle, hein, à l'époque de Kubilai. On peut dire qu'il était chinois. Mais Kubilai, souvenez-vous, était un empereur éclairé.
Plutôt, oui.
Et il a très vite accordé au Tibet sa pleine souveraineté. En résumé, le Tibet était sous protectorat chinois à cette époque, mais avec son propre gouvernement. Alors plus tard, au XVe siècle, s'est installée une théocratie lamaïste au Tibet, avec deux chefs spirituels, on va en reparler un peu plus tard, le Dalai Lama et le Panchen Lama, qui ont été reconnus par la dynastie Ming, qui a succédé à la dynastie Yuan. Il n'y a pas eu tellement à partir du XIIe siècle, les dynasties se comptent sur les doigts d'une main en Chine. Il y en a eu beaucoup avant, là il y en a eu très peu, je pense que c'est important de dire. Donc après Yuan, il y a eu la dynastie Ming qui a duré plusieurs siècles, 3 je crois, on en reparlera.
Oui.
Et puis ensuite la dynastie Ming, il y a eu la dynastie Qing. Et les Qing, c'est la dernière des dynasties.
D'accord.
Donc, c'est pour planter aussi un petit peu
oui,
le décor.
D'accord. Hein?
Donc, on est presque dans la modernité avec la dynastie Ming. Voilà. Mais le Tibet est quand même resté un pays vassal, même si on lui reconnaissait un gouvernement.
Oui.
Alors, on est maintenant en 1645. Lhasa devint la capitale du Tibet et le Potala fut construit pour devenir la résidence du Dalai Lama et le siège de son gouvernement. Donc, le Potala qu'a visité Alexandra David
Ney. C'est vrai.
Alors, en 1650, le Dalai Lama créa officiellement l'institution du Panchen Lama, le grand érudit, deuxième haut dignitaire du bouddhisme tibétain.
Alors, moi, je connaissais pas du
pouvoir.
Tout. Un des deux, oui, mais bien sûr, comme
ben
tout le monde.
Voilà.
Mais quelle différence entre les deux
et
quel rôle ils ont?
Très important. Alors, au risque de décevoir nos auditeurs et de te décevoir, Didier, je ne vais pas rentrer dans le détail des réincarnations successives et puis des choix des Panchen Lama et des Dalai Lama à chaque fois, parce qu'il fallait retrouver un petit garçon ou une petite fille, mais c'était des petits garçons qui se réincarnaient à l'époque. Et puis des luttes de pouvoir entre le Tibet et la Chine concernant la succession du chef spirituel du bouddhisme tibétain.
Bien sûr.
Mais je vais tenter d'expliquer ce que sont le Dalai Lama et le Panchen Lama et pourquoi c'est une grande source de tension entre la Chine et Tenzin Gyatso, l'actuel Dalai Lama, le 14e et peut-être le dernier.
Ah.
Très important, c'est lui qui le dit, c'est pas moi.
D'accord.
Enfin, je ne répète que ce qu'il a dit, le Dalai Lama.
Je te crois sur parole.
Voilà. Donc, Dalai Lama. Alors, Dalai signifie en tibétain océan et Lama, maître spirituel. Ce qui se traduit par océan de sagesse, vous l'avez compris.
Ouais.
Comme Alexandra était l'ambre de sagesse.
D'accord.
Alors, pour les Tibétains, le Dalai Lama est une émanation du Bodhisattva de la compassion, Avalokitesvara. Il est le dirigeant spirituel et politique, mais là j'y mets des guillemets, du Tibet. Aujourd'hui en exil et non reconnu, bien évidemment, internationalement. Il est reconnu en tant que personne, mais pas en tant que chef
du Tibet.
Alors le Panchen Lama, ça veut dire grand érudit, et lui aussi une réincarnation, mais c'est une deuxième lignée qui émane d'un autre bodhisattva. Alors le bodhisattva, c'est l'équivalent des saints,
saint. Je te remercie parce que là, j'y étais pas. Ok.
Voilà. Et donc, le bodhisattva du Panchen Lama s'appelle Amitabha. C'est le Bouddha de la lumière infinie. Voilà, donc deux lignées de maîtres spirituels.
Mm-hmm.
Et la succession, aujourd'hui, du Panchen Lama est un problème, parce que s'il y a un Dalai Lama qui est actuellement en Inde, et qui est le chef spirituel du bouddhisme tibétain, il y a deux prétendants pour être Panchen Lama.
Ah.
Un qui est reconnu par le Dalai Lama, qui serait, et je mets le conditionnel, détenu en Chine, dont on n'a pas de nouvelles.
Tiens.
Enfin, la Chine dit qu'il va bien, il serait en Chine.
D'accord.
Et puis, il y en a un autre qui est désigné par la Chine, qui a été sélectionné, qui est aussi une réincarnation. Et il s'appelle Jian Kan. Alors, je pense que ça se prononce autrement. Mais il s'appelle Norbu, de son nom de famille.
Oui.
Il a 34 ans. Et lui, par contre, il vit au Tibet.
Bah tiens, s'il est désigné par la Chine, je suis étonné.
Mais il est vraiment maître spirituel.
D'accord.
C'est quelqu'un qui a vraiment des compétences, mais qui est reconnu par la Chine.
Oui.
D'accord.
D'accord.
Alors, cette succession est un réel enjeu politique, vous pensez, vous
le pensez
bien. Et j'espère avoir été un petit peu claire quand même.
Oui, bah, tu as éclairé ma lanterne à moi. Pas
c'est
de
vrai.
Oui, oui.
Oh.
Donc, si on revient à l'histoire du Tibet, qu'est-ce qui s'est passé après le 15e siècle alors?
Oui, c'est vrai, j'ai fait un petit écart.
C'est pas, non, tout va bien.
Bah, revenons donc à l'histoire du Tibet, Didier. Donc, je vais résumer cette période-là parce que ça a été une époque très compliquée et. Je dirais loin de nous un petit peu, même dans les termes. Alors, ça a été plutôt une époque de partenariat, je dirais plutôt pacifique avec la Chine, qui avait bien d'autres préoccupations. Mais au 18e, il y a eu une guerre contre le Tibet. Il y a eu une guerre du Tibet contre les Népalais. Non, les Népalais contre le Tibet, pardon.
D'accord.
Ouh là là. C'est les Népalais qui voulaient envahir le Tibet.
Okay.
Alors, la dynastie Mandchou, les Qing, la dernière dynastie, ont aidé les Tibétains à refouler les envahisseurs. Et cela a donné l'occasion à l'empereur chinois de l'époque, qui s'appelait Qianlong, de rappeler au Dalai Lama que le Tibet était sous la tutelle chinoise. Donc là, c'était une petite piqûre de rappel.
Voilà.
Mais au siècle suivant, donc on est au 19e, la Chine, très occupée à tenter de régler des conflits intérieurs et extérieurs avec les Occidentaux, a semblé oublier le Tibet. C'était les fameuses guerres de l'opium, la guerre des boxers avec les Français, les Anglais. La Chine allait très mal. C'était la fin de la dynastie, ne l'oublions pas. Ouais. C'est à ce moment-là que le Tibet fut officiellement interdit aux étrangers. Mais c'était sans compter sur les Anglais, qui réussirent à s'implanter quand même, toujours très tenaces concernant les échanges commerciaux, et qui en fit un protectorat non reconnu par la Chine, mais qui avait d'autres chats fouettés à l'époque.
Oui, c'est
bon, je pense que ça nous a peut-être... C'était un peu...
C'est dense.
Ardu quand même,
oui,
c'est dense.
Oui,
alors,
c'est
une pause musicale nous ferait du bien. Donc, je vous propose d'écouter une jeune chanteuse tibétaine qui s'appelle Tsewang Lamo.
Oui.
Et c'est Monlam Namsoon.
D'accord, écoutons. Sur Radio Alpa 107.3, vous écoutez Asialogie. On va retrouver Corinne qui va nous emmener à nouveau vers le Tibet, mais celui du XXe siècle, après avoir écouté Tsewang Lamo qui nous chantait une petite chanson.
Sympa, Tsewang Lamo.
Entraînante et agréable.
Ben oui, elle nous fait arriver au XXe siècle. C'est tu ça. As bien suivi, Didier.
Oui, j'essaye.
Alors, et le début du XXe siècle, c'est 1911 avec l'aboutissement de la première révolution chinoise et l'abdication de Puyi, le dernier empereur.
Oui.
Celui de Bernardo Bertolucci.
Oui.
Voilà, de la fameuse dynastie, la dernière, la dynastie Manchu Qing. Alors, le Tibet va profiter de la situation et va revendiquer son statut d'État indépendant qui lui sera accordé pour la première fois de son histoire par la communauté internationale en 1913.
Oui.
Ah oui, ils ont fait preuve, enfin, je dirais, d'opportunisme,
un peu d'opportunisme,
quand je dis ça, ils en ont profité,
oui, hein,
que la Chine était occupée à bien d'autres
bien
choses.
Sûr.
Alors, à cette époque-là, le Tibet possédait une administration centrale et sa propre monnaie. Le temps passe et c'est la Seconde Guerre mondiale. L'époque du film de Jean-Jacques Hano, ça je tiens à le rappeler parce que c'est un excellent film,
ah,
je
j'aime
trouve.
Beaucoup, moi.
7 ans au
je
Tibet.
Je regarde avec plaisir.
Voilà, avec...
Bah, Brad.
Avec,
eh oui.
Oui, comment ai-je
non,
pu
oui.
hésiter un seul instant avec Brad Pitt, bien
c'est sûr.
Dans lequel on voit en 1950 l'invasion sanglante du Tibet par la Chine de Mao avec son occupation et les révoltes qui vont suivre jusqu'en 1959 avec l'exil en Inde du Dalai Lama actuel à Dharamsala. Alors là-bas, à Dharamsala, le Dalai Lama va constituer une administration centrale et écrire une constitution démocratique pour le Tibet. Alors actuellement, c'est le gouvernement tibétain en exil, ça s'appelle comme ça,
oui.
mais sans pouvoir, qui continue la lutte politique pour l'indépendance du Tibet, le Dalai Lama étant maintenant le dirigeant spirituel.
Oui.
Il y a deux entités là, du coup. En 1965, le Tibet a été déclaré région autonome par la Chine, qui a modifié le territoire historique du Tibet pour incorporer certaines régions tibétaines au territoire chinois. Alors en fait, je vais essayer d'être simple, c'est le nord du Yunnan, enfin l'est-nord du Yunnan, la partie himalayenne du Yunnan,
oui,
qui est devenue chinoise.
D'accord.
Enfin, disons que la Chine s'est agrandie sur cette partie-là.
D'accord.
Donc, tout d'un coup, pof, y a eu la frontière s'est déplacée. Et les Tibétains se sont retrouvés chinois sans le vouloir.
Ah, tiens.
Et bah là, 4 millions, hein, 4 millions de Tibétains qui vivaient dans ces régions-là se sont retrouvés chinois du jour au lendemain, en situation de minorité ethnique. Et à l'inverse, bah, y a une politique de sinisation qui est en cours, qui rend minoritaires les Tibétains qui sont restés sur leur propre sol.
Ouais, c'est toujours la même chanson, quoi.
Voilà. Donc, c'est un petit peu, je dirais pas en douceur, mais c'est pas une guerre déclarée.
Oui.
Il n'y a pas eu les missiles, il n'y a pas
eu. J'ai du mal à entendre la douceur, mais oui, c'est ça.
Non,
j'entends bien, j'ai bien compris ce que tu veux dire.
Alors, ensuite de tout ça, il y a eu de nombreuses émeutes anti-chinoises qui ont été très réprimées dans les années 80, 89 et aussi en 2008. Bon, et pour rappel, bah, je voulais dire quand même que c'est en 90 hein, que l'international a attribué le prix de Nobel de la paix au Dalai Lama.
D'accord. Bah, il y a quand même un truc, mais qu'est-ce qui attire tant les Chinois, la Chine, pour qu'ils tiennent comme
pourquoi
ça
au Tibet ?
Pourquoi ils tiennent tant au Tibet ? Mais oui, c'est ça. Qu'est-ce qui leur importe ? Bah,
c'est facile à expliquer, Didier.
D'accord.
Et je peux... on comprend les Chinois, quelque part. Le Tibet a de nombreuses ressources naturelles. C'est un pays très boisé, avec une nature magnifique. Et le contrôle de cet immense territoire, hein, cinq fois la France, présente un intérêt majeur pour la République populaire de Chine.
Mm-hmm.
C'est un territoire qui surplombe l'Asie du Sud, qui permet de contrôler les accès en direction de l'Asie centrale, et aussi avec l'Inde. Avec la Chine,
ouais,
la Chine et l'Inde ne s'entendent pas terrible.
Je te suis.
Et surtout, c'est un vrai château d'eau, d'où proviendrait 30% des ressources hydrauliques de la Chine.
Oui, effectivement.
Qui manque cruellement d'eau dans d'autres régions. Alors, il ne faut pas oublier que le Yangtze, le fameux fleuve bleu, et le Huanghe, le fleuve jaune, ont leurs sources dans l'Himalaya.
Oui.
Et qu'ils assurent l'alimentation en eau d'une grande partie de la Chine.
Ah oui, ça c'est très stratégique. D'accord.
Donc c'est la guerre de l'eau en quelque sorte.
Oui, c'est ça, c'est l'or bleu.
Et le Tibet possède aussi... ça ne gâte rien, un grand nombre de gisements de cuivre, de chrome et des réserves de lithium.
Pour un pays industriel comme la Chine, forcément, du lithium, tout ça.
Le lithium, c'est très utile, hein, surtout dans les pays qui fabriquent de la technologie.
C'est ça.
Et du borax. Okay. Et c'est donc des gisements les plus riches du monde. Tout s'explique, Didier.
Oui, ça s'explique. Mais là, je comprends l'intérêt économique et ce que ça peut engendrer. Et aujourd'hui, du coup, ils vivent comment, les Tibétains ?
Alors, on peut dire qu'ils vivent désenclavés, surveillés de près et sinisés, et en cours de sinisation.
Oui.
Et le Tibet est devenu, pour les Chinois, il faut le savoir, un haut lieu du tourisme.
Ah, même
les,
pour
Chinois,
les Chinois
vont visiter
D'accord.
le Tibet,
okay.
Et ils aiment beaucoup le Tibet.
D'accord.
Par exemple, le désenclavement du Tibet s'est accéléré en 2006 avec la mise en service de la ligne de chemin de fer qui s'appelle Qingzhang, qui permet de relier Pékin à Lhasa, soit 3500 km en une quarantaine d'heures.
Mmh.
Et c'est la voie de chemin de fer la plus haute du monde, avec une portion de 1100 km à plus de 4000 mètres d'altitude.
Ah, tout de même, 1100 km à plus de 4000, c'est
voilà.
pas mal.
Alors, c'est les Chinois disent que c'est le dragon de fer qui danse sur le toit du monde.
Joli.
C'est joli. Alors, c'est un train de luxe et de marchandises. On a fait double emploi,
avec
des voitures pressurisées, qui ne peut rouler au-delà de 120 km/h.
Ouais.
C'est vraiment le maximum.
J'imagine,
il roule même.
Oui, moins que ça. Mais c'est pas grave. Si j'y étais pour le temps de regarder le paysage, ça m'irait très très bien.
Et
qu'il
n'aille
pas trop vite.
Bah, c'est à cause du gel. Hein.
Ouais,
la terre
suppose.
Est tellement gelée.
Oui, forcément, à 4000.
Pardon ?
À 4000 mètres, forcément, oui. Il y a les aléas climatiques qui font que ça ne peut pas rouler bien vite. Mais c'est pas grave.
Alors, pour ce qui concerne la culture tibétaine, c'est difficile pour les Tibétains. La langue est en danger car tout l'enseignement est maintenant fait en chinois. Alors, il y a des écoles, bien sûr, dans les monastères, mais l'enseignement public est chinois. Et on peut dire que l'identité tibétaine meurt petit à petit, d'autant que beaucoup d'enfants sont obligés de quitter leur famille pour aller à l'école en Chine, dans des internats loin de leur pays. Alors, c'est très... je dirais, ça peut sembler être une bonne idée quelque part. Mais du coup, c'est un processus de déculturation. C'est-à-dire que ces enfants-là, ils vont apprendre beaucoup bien de choses, ils vont être très bien traités.
Oui, une bonne éducation, mais pas une éducation tibétaine.
C'est ça.
On
voilà.
est d'accord.
Et tous les Tibétains doivent avoir en permanence avec eux leur carte d'identité, puce qui contient toutes les données sur leur vie personnelle et professionnelle.
D'accord. Et alors, que fait la communauté internationale
Pas grand-chose, Didier. Il ne faut pas oublier que la Chine siège à l'ONU et fait partie du Conseil de sécurité et que la plupart des autres pays ne veulent pas heurter la Chine. Et peut dire que le Tibet est finalement peu soutenu. Bon, je pense qu'on va...
Oui. On va
s'écouter une pause musicale, Didier.
D'accord.
En attendant que le problème soit résolu de manière non violente, c'est ce qu'on espère, et qu'on retrouve le Panchen Lama disparu des radars à l'âge de 6 ans.
Très bien.
On va s'écouter en attendant.
Oui.
Que tu nous parles.
Saung et Jackie Chan.
Voilà, avec les morts.
Belle
on écoute
chanson.
Kim Hee-sun et Jackie Chan.
C'est ça.
风雨在将你融入怀中，两颗心颤抖，相信我无边的真心，千年。
C'était Jackie Chan et Kim Hee-sun avec Endless Love. Bon, Didier,
oui.
Tu nous parles du dialogue avec les morts en Chine ?
Oui, on y vient. Alors,
vas-y.
En Chine, c'est une révolution dans le secteur funéraire qui s'installe en fait. Un concept nouveau. Là-bas, l'intelligence artificielle, l'IA, repousse les limites de la morale et redonne vie aux personnes décédées en permettant des conversations avec des versions virtuelles des disparus. Et oui, c'est un jeune ingénieur de Nankin, à 300 km de Shanghai, Sun Kai, qui en est l'un des précurseurs. Il a mis au point cette nouvelle façon de dialoguer avec les morts après le décès de sa mère. Et selon ses dires, ça lui a fait beaucoup de bien. Alors, il raconte qu'il se sentait coupable de ne pas avoir passé assez de temps avec elle. Il a donc recréé une IA selon de nombreuses données. Cela lui a permis de combler un peu ce manque qu'elle lui a laissé au travers ses dialogues en visio. Il peut la voir tous les jours avec elle, en la regardant sur son écran, etc.
Ah, bah moi, ça me parle, ça, parce que c'est la version, on peut dire, modernisée de la recherche du dialogue avec les morts par l'intermédiaire d'un médium ou d'un chaman. C'est très pratiqué en Asie.
Oui, on peut dire ça. En Asie, il faut savoir que le rapport à la mort et avec les morts est très différent de notre conception occidentale. En Chine, les relations entre les vivants et les morts sont basées sur le modèle des relations entre les vivants. C'est le principe confucianiste de la réciprocité, pardon, qui fonde les obligations des enfants envers leurs parents, qui va se prolonger dans la mort sous la forme de rituels d'offrandes ou tout au long de l'année, quoi. Et dans beaucoup de foyers, il y a un hôtel dédié aux parents, aux ancêtres avec lesquels on essaie de communiquer. En effet, l'esprit des disparus est présent dans la famille et garde malgré la mort des facultés humaines fondamentales comme la parole. Alors rien d'étonnant finalement à ce que cela devienne une prouesse technologique.
Alors ça fonctionne comment ? Comment on fabrique son ancêtre virtuel, Didier ?
C'est assez simple en fait. C'est une IA qui va remplacer le médium humain ou le chaman auquel on fait appel pour prendre des décisions, par exemple, ou pour avoir un avis, des réponses, des questions existentielles, quoi. Les vivants ont besoin de la protection des morts et de leur assistance pour parfois se
réparer. C'est un peu le cas de Sun Kai qui a créé sa mère virtuellement pour communiquer avec elle. Il a monté son entreprise à Nankin où travaillent maintenant plusieurs centaines de programmeurs pour mettre au point les profils numériques des personnes décédées. Pour copier l'apparence physique, ils ont besoin simplement d'une vidéo d'environ 3 minutes où la personne qui parle tout en faisant des gestes naturels et habituels. Puis pour le son, pareil, ils ont besoin d'une dizaine de minutes d'enregistrement audio. Tout ça prend seulement quelques jours finalement.
Impressionnant. Alors comment font-ils pour faire penser la personne virtuelle?
C'est un peu plus compliqué. Il faut nombreuses données sur la personne décédée, qui elle était, ce qu'elle pensait, ses valeurs, sa manière d'être, ses défauts, ses qualités. Il faut construire un portrait physique ressemblant au profil psychologique cohérent. Que la famille validera. En fait, voilà, plus il y a de données et plus l'IA elle a moyen de redonner quelque chose derrière. Le tarif pour créer un profil numérique commence à 2000 euros, mais on peut monter beaucoup plus haut si la famille souhaite par exemple pouvoir dialoguer comme avec une personne vivante ou n'importe quel sujet. Ce nouveau marché, s'annonce prometteur dans un pays qui compte chaque année 10 millions de décès, autant qu'il y a en potentiel.
Ah oui, j'y avais pas pensé.
Eh oui.
Alors, y a-t-il d'autres applications prévues dans ce domaine-là?
Oh oui, ça, ils vont être inventifs. On peut faire participer les défunts à leur propre obsèque maintenant. En effet, l'intelligence artificielle en Chine va aussi changer l'organisation des enterrements. Ce projet complètement fou est de faire participer les défunts à leurs propres obsèques. La personne décédée pourra en quelque sorte diriger son enterrement, dialoguer en visio avec l'assistance.
Ah, ça doit être gênant quand même.
Moi, ça me parle pas beaucoup. Je trouve le sujet surprenant, mais parfois dérangeant sur certaines choses. Mais bon, c'est encore en phase d'expérimentation, ça. Il y a de nombreuses demandes pour ces nouvelles formes d'enterrement numérique. Aux États-Unis, ils travaillent aussi là-dessus. On peut parier qu'on va en débattre prochainement en France. Ça va arriver.
Sûrement.
En conclusion, je peux dire que l'utilisation de l'IA pour ressusciter les morts numériquement nous interroge profondément sur notre rapport à la mort, à la mémoire. Oui, bien sûr, moi aussi, j'ai mon IA propre dans mon cerveau avec ma maman, mais là c'est un ordinateur qui la remplace, qui met en évidence c'est des défis éthiques et que ces innovations posent à notre société. La possibilité de maintenir un lien avec ceux qui nous ont quittés, bien que séduisante, soulève beaucoup, beaucoup de questions.
Bon, Didier, merci.
Oui.
Asialogie, c'est fini.
Oui.
Chers amis, n'oubliez pas de visiter notre page Facebook. On attend vos avis et vos suggestions. Rendez-vous la semaine prochaine sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
Belle semaine à tous. À la semaine prochaine.
Спасибо.